Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des grands groupes multinationaux, mais aussi nombreux que l'Église, il n'y en a aucun. Là, c'est des milliards. Plus d'un milliard de personnes aujourd'hui sur la terre, de façon continue, louent le Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Sur toute la terre, il y a des gens qui aujourd'hui, comme on l'a entendu, « Seigneur, merci, je t'aime, tu as changé ma vie, tu m'as sauvé non seulement pour l'éternité, mais déjà là dans ma vie, tu m'as sauvé parce que j'allais faire des bêtises, tu m'as gardé, tu m'as renouvelé, tu m'as fortifié. Seigneur, quelle grâce! Mes amis, quelle grâce! Que le nom du Seigneur soit béni. » Voilà, aujourd'hui, je voudrais terminer cette série. On a vu le chrétien dans sa famille, le chrétien dans l'Église, et je voudrais ce matin parler du chrétien dans le monde. Parce que nous sommes dans le monde. Alors, nous sommes au plan d'Aube, à Istres, à Marseille, à Aix, à voilà, d'autres sont à Jakarta, des habitudes très différentes, des réactions très différentes. Je vais vous dire, moi j'ai prêché dans une grande église de Jakarta. Alors je prêchais en anglais et j'étais traduit par le pasteur de l'église en indonésien. Aucune expression. Aucun amen, aucune expression. 500 personnes, on aurait dit des statues. Alors vous prêchez, vous commencez à prêcher là, et puis vous vous dites, peut-être que le traducteur, il ne traduit pas exactement ce que je dis. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit en indonésien, quoi. Hein. Et donc, vous voyez, vous êtes un peu... Ça vous déstabilise un peu, quoi. Puis au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, vous dites, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Alors, on prêche, 400, 500 personnes, des statues, aucune expression, aucun sourire, aucun amen, rien. À la fin, je dis, Seigneur, par la foi, je fais quand même un appel. Un appel. Et là, ma grande surprise, les deux tiers de l'église se lèvent et viennent devant. Parce que l'habitude, ce n'est pas d'extérioriser. Nous, on est différents. On extériorise. Mes frères et sœurs, si vous voulez dire amen, dites amen. Amen. Alléluia. Hein? Alléluia. Alors, on va commencer avec la prière de Jésus. Ah, j'ai oublié de le mettre en marche, c'est ma faute. La prière de Jésus. La prière de Jésus, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler la prière sacerdotale. C'est-à-dire, c'est la prière avant que Jésus n'aille à la crucifixion. Et là, il demande au Père, pour nous, que nous soyons dans le monde, mais pas du monde. Voilà ce que l'évangile de Jean nous révèle. Le Seigneur va prier et va dire, je ne suis plus dans le monde. Vous voyez, il se considère déjà comme étant partie du monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom tous ceux que tu m'as donnés. Vous pourrez ce matin lever la main parce qu'on a été donné au Seigneur Jésus. Alléluia, on lui appartient. Amen. Amen. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Mon frère, ma sœur, peut arriver toutes sortes de choses. Sache que le Seigneur, il a prié pour toi. Garde en ton nom. Il y a une bénédiction particulière pour ta vie. Garde-les ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. On a parlé de l'unité, vous rappelez hier de l'Église. Qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mes frères et sœurs, cette prière si importante de Jésus, elle nous invite à être des chrétiens dans la société, pas en dehors de la société. Vous savez, il y a eu dans certaines religions, des gens qui ont cru qu'on devait faire des monastères au sommet d'une montagne, coupés de tout. Alors on vit en autarcie totale, sans aucun contact avec le monde. C'est totalement contraire là à la prière de Jésus. La prière de Jésus, il le précise. Il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Non, le Seigneur ne veut pas nous enlever du monde, mais il veut nous laisser dans le monde. Mais il dit, je veux qu'il reste dans le monde, mais qu'il ne soit pas du monde, qu'il soit différent. Amen. Qu'il soit différent, mais qu'il reste dans le monde. Et voyez-vous, le Seigneur, dans cette prière, il demande trois choses. Premièrement, il demande, garde les chrétiens, qu'ils demeurent unis dans la foi, dans la soumission aux paroles de Jésus, dans les sentiments de Jésus. Excusez-moi, j'ai chaud là. Voilà, il demande, il dit qu'ils soient un comme nous sommes un, c'est-à-dire cette communion avec le Père, qu'ils soient unis dans la foi, dans la soumission aux paroles de Jésus, dans le partage des sentiments de Jésus. Puis il demande au Père de les préserver, les chrétiens du monde grandissante. Mes frères et sœurs, et en particulier vous les jeunes, vous êtes venus dans un monde et on pense que le monde a toujours été comme ça. Je peux vous dire qu'il n'en est rien. Et quand on arrive à la fin, vers la fin de sa vie, comme c'est notre cas, c'est mon cas, on regarde ce qui a été parcouru, le monde tel qu'il était il y a 60, 70 ans, 80 ans en arrière, et ce qu'il est maintenant. Mais il y a un changement spirituel effrayant. Je vais vous donner des exemples très simples, très très simples. Le président de Gaulle, il avait sur son bureau deux cases de courrier. Le courrier qu'il envoyait en tant que président de la République et le courrier qu'il envoyait à titre personnel. Et quand il envoyait un courrier à titre personnel, il prenait son portefeuille, il ouvrait son portefeuille, il prenait un timbre qu'il avait acheté lui-même avec ses deniers et il collait le timbre sur l'enveloppe. Il ne confondait pas ce qui était personnel de ce qui était public. Allez chercher ça aujourd'hui chez un homme politique. L'adultère, c'était une cause de divorce. Et quand quelqu'un commettait un adultère et qu'il y avait un constat d'adultère, dans le divorce, il perdait tous les droits vis-à-vis des enfants, etc. Parce que la société reconnaissait qu'il y avait une faute morale. Et aujourd'hui, le président, il y a eu des présidents de la République. Hein, par exemple, François Hollande, il a excellé là, hein. D'accord. Et d'autres avant lui, hein, Mitterrand, il avait des filles cachées, deux, trois familles, c'était connu d'un certain nombre. Alors je ne parle pas de Strauss-Kahn, hein. Voilà, on l'oublie, hein. Et de certains au gouvernement aujourd'hui. Quelle déchéance, mes amis! La pollution spirituelle! La pollution spirituelle qui s'insinue en mettant de la superficialité dans ce qui devrait être précieux. Par exemple, les réseaux sociaux. Combien tu as de followers, d'amis? C'est des amis? Tu crois que tu peux aller leur demander de t'aider si tu as un problème? Ah mais certainement pas, hein. On a dévalorisé tout. Il n'y a plus de profondeur. Un ami, la parole de Dieu nous dit qu'un ami, tu vas le déranger dans la nuit pour qu'il t'aide. Ça, c'est un ami. Non, une pollution spirituelle. Seigneur, garde-les de cette pollution spirituelle. Garde-les de tout ça. Et puis Jésus demande une troisième chose au Père, de les sanctifier par sa parole. C'est-à-dire la parole, va les mettre à part de ce monde-là. Elle va quelque part les écarter de cette pollution. Elle va les garder pour Dieu. Elle va les garder dans les pensées de Dieu, dans les sentiments de Dieu. Vous voyez, à côté, j'ai mis une image. Qu'est-ce que c'est ? Ah, sel et poivre. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on soit ? Poivre ? Sel. Amen. Qu'on soit le sel de la terre, qui donne du goût, qui soit différent. Vous savez, le Seigneur a pris des images très simples, parce que l'Évangile, il est très simple. Et chacun de vous, vous savez bien, on vous donne un plat, vous mettez une bouchée à la bouche, vous dites « Ah, ça manque de sel ». Ce n'est pas la peine que vous mangiez tout le plat pour vous rendre compte que ça manque de sel. La première fourchette que vous mettez à la bouche, vous dites « Ah, ça manque de sel, passe-moi la salière, chérie ». Et hop, on rajoute du sel. D'accord ? On sait tout de suite quand ça manque de sel. Quelle belle image le Seigneur a pris, que vous soyez le sel de la terre. Alléluia ! Le sel, celui qui va donner un goût différent. C'est ça que le Seigneur veut. Alors, être chrétien, vous savez que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors moi, je suis très simple. Hein. Et je me dis, Seigneur, les terriens, ce sont ceux qui sont de la terre. Les martiens, ce sont ceux qui sont de Mars. Bon, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas, mais bon, on estime que, vous savez, il y a une époque, on pensait qu'il y avait des petits hommes verts sur Mars. Depuis, on a envoyé des robots, tout ça, on a vu qu'il n'y a rien sur Mars. Au passage, je vous fais remarquer qu'on dépense des fortunes et des fortunes pour aller voir dans l'espace si on trouve quelque chose, et plus on envoie des choses loin, etc., et plus on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Bon, ceux qui lisaient la Bible, ils pouvaient le savoir dès le début, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc on est d'accord, les terriens sont de la Terre, les martiens sont de Mars. Et les chrétiens, ils sont de Christ. D'accord, ils sont de Christ. C'est ceux chez qui on retrouve Christ, l'empreinte de Christ. Et dans l'empreinte de Christ, il y a les sentiments de Jésus, l'amour dont on a parlé hier, et puis il y a une chose particulière. Quand on lit les Actes des Apôtres, en particulier dans le chapitre 11 et versets 19 à 21, je vais le résumer, il nous est dit qu'il y a une grande persécution au début de l'Église, une grande persécution à Jérusalem. Alors ils partent en Phrygie, en Pamphylie, dans différentes régions. Et le texte nous dit en une phrase que tous ceux qui sont partis comme ça, qui ont fui à cause de la persécution, ils ont tous un point commun. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ce point commun ? Hop là, pardon, je suis allé bien trop vite. Voilà. Ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a une particularité. Les chrétiens, la persécution les a fait fuir. Ils sont allés dans différentes régions. Et partout où ils sont allés, ils ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Là où ils sont allés, ils ont annoncé aux hommes qui étaient là, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que ta vie soit transformée, pour qu'une espérance nouvelle vienne, pour qu'il y ait la force de Dieu en toi, pour qu'il y ait le Saint-Esprit qui te conduise, pour que sa parole t'enrichisse et conduise ta vie. Tous. C'était le point commun. Ils sont partis dans des régions, dans d'autres, ils avaient des modes de vie différents, mais un point commun, ils annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Parce que il y a deux missions pour le chrétien dans le monde, et deux, et pas 36 000, il y en a deux. Les deux missions du chrétien dans le monde, je dis dans le monde, dans les deux sens du mot « le monde ». Parce que le monde, on utilise en français ce mot pour dire la société en général, hein, les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, c'est le monde, d'accord ? Mais il y a aussi le globe c'est le monde. Hein ? Eh bien, Il y a deux missions pour le chrétien dans la société, les gens qui sont autour de lui, qui ne sont pas chrétiens. Et puis, il y a deux missions pour le chrétien dans le monde, la terre. Ces deux missions, on l'a déjà dit, le Seigneur vous dit, vous êtes le sel, la lumière. Le sel, celui qui apporte un goût différent. Qu'est-ce que c'est ce goût-là? Mais c'est le goût de ce qui vient de Dieu. Le goût de... Ah, c'est différent de... Jusqu'à présent, c'était fade. Vous remarquez que quand il n'y a pas de sel, c'est fade. Ça donne pas envie, mais quand vous mettez du sel, waouh! On dit que c'est un... Comment on dit? Un exhausteur... Je ne sais plus le dire, là. Dites-le-moi. Un réhausseur de goût. Hein, voilà. Hein, ça rend les choses... Waouh! C'est bon. Mon frère, ma sœur, quand tu es au milieu d'un monde sans saveur, un monde qui se perd dans la folie qui gagne peu à peu, et que toi, tu as les sentiments de Jésus, la parole de Dieu, tu as un goût différent. Et ceux qui sont autour disent, mais il est différent, il est différent. Être le sel, la lumière. Vous savez, la lumière, c'est simple et en même temps, c'est extraordinaire. Hein. Si on éteignait les lumières ici, on fait tout noir. Et puis on dit, maintenant on sort. Combien il y en a qui taperaient dans la vitre? Qui se prendraient les pieds dans les chaises? Qui se cogneraient dans le mur? Qui, vous voyez, quand il n'y a pas la lumière, on ne sait pas où on va. Quand il n'y a pas la lumière, on est incapable de se diriger. Mais mes frères et sœurs, dans le monde, les hommes, ils ne savent pas se diriger. Il y en a qui entreprennent des démarches, elles sont folles. Ils vont au-devant d'un problème, ils vont se casser le nez sur le problème. C'est évident. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de lumière, il n'y a pas rien qui les guide. Mais celui qui a la parole de Dieu, elle nous guide. Elle nous guide. Si vous êtes attentif à la parole de Dieu, elle va vous guider dans votre vie ici-bas. Moi, j'étais tout jeune et j'aimais lire les proverbes. Je ne sais pas si vous lisez les proverbes. Et il y a des versets dans ma Bible de l'époque que j'avais encadré, les proverbes. Par exemple, il y avait un verset, je dis ça au cas où il y a quelqu'un là qui se dit peut-être je pourrais un jeune pourrait fréquenter un compagnon futur. Alors moi j'avais encadré un verset, il disait ce verset, il dit il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit sous une gouttière percée que vivre avec une femme querelleuse. Moi je connaissais une jeune fille, je commençais à tâter un peu, mais oh elle est querelleuse celle-là. J'ai pas envie de vivre sous l'angle d'un toit sous une gouttière percée, hein. Dans des choix de la vie, la parole de Dieu vous guide. Dans des choix de la vie. Et voyez-vous, les deux missions, c'est être le sel, la lumière. C'est être, avoir, je dirais, le goût de Dieu. Avoir la lumière de Dieu en nous. Mon ami, fais attention à ton âme. Prends garde à ton âme. Parce que tu peux être... Le plus grand du monde, le plus grand. Mais si tu perds ton âme, tu as tout perdu. Fais attention à ton âme. Fais attention à ta famille, on en parlait hier. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est vrai pour tous, y compris pour les pasteurs. Je dis ça parce que je sais que quand on est pasteur, c'est difficile avec nos enfants, avec notre épouse, de garder des temps. Fais attention, Joël. Fais attention. Faites attention, mes frères et sœurs. Ça, c'est ce que Dieu veut voir en nous. Et puis, la deuxième mission, eh bien, cette deuxième mission, elle est d'une ampleur, mais inouïe, immense. Le Seigneur, après la résurrection, va se présenter aux disciples et il nous est dit que Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Et puis, il va leur dire « Comme le Père m'a envoyé ». Moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Comment le Père a envoyé Jésus? Le Père a envoyé Jésus sur la terre des hommes, au milieu des hommes, afin que Jésus attire à lui ceux qui sont perdus et qu'il les sauve et qu'il les fasse entrer dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Je vous envoie avec une mission, la même que celle que le Père m'a donnée. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. C'est-à-dire la mission de salut que Dieu a fait reposer sur son Fils, eh bien le Seigneur Jésus l'a fait reposer maintenant sur nous tous. Parce qu'au travers des disciples, c'est toute l'Église qui est derrière les disciples de Jésus et qui se sont ajoutés au fur et à mesure des années et qui parvient jusqu'à nous. Eh bien, comme le Père m'a envoyé, le Seigneur Jésus dit à l'Église d'Istre, « Je vous envoie ». Waouh ! Quelle perspective ! Et en même temps, quelle assurance, parce que si le Père a envoyé Jésus, le Père, il était avec Jésus. Et le Père, il faisait les miracles. Et le Seigneur pourra dire à ses disciples, mais ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les paroles du Père. Et ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, je fais ce que le Père me donne de faire. Donc le Père, il est avec le Fils. Eh bien, mes frères et sœurs, le Père, il est avec les disciples, le Seigneur, il est avec les disciples. Et la mission que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est d'être le sel, la lumière, et d'être envoyé dans le monde. Donc il n'est pas du tout question de sortir du monde. Mais au contraire, il est question d'être dans le monde. Être chrétien, c'est se rappeler de la croix, c'est la croix, c'est par le sacrifice à la croix que nous avons commémoré tout à l'heure, le sacrifice de Jésus, les mains percées, les pieds percés, le côté percé, l'agonie épouvantable à la croix. Et le Seigneur dit, tout est accompli. Comme le texte de notre frère, que le frère a choisi, nous le rappelle, c'est jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais un jour il vient prendre son Église. Amen. Mais être chrétien, c'est aussi se rappeler de la Pentecôte. 50 jours après la crucifixion, Pentecôte, ça vient de Penta. Penta, c'est 50. 50 jours après la crucifixion, eh bien, 50 jours après, le Seigneur leur avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le jour de la Pentecôte, vous savez que les 120, les disciples, ils étaient 120, ils étaient réunis dans une chambre haute, et ils priaient, et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit descendu sur eux, ils se sont mis à parler en langue des merveilles de Dieu. Ça a été une révolution dans tout Jérusalem. Il y avait des Juifs qui étaient montés pour les fêtes à Jérusalem, et qui tout d'un coup ont entendu des gens parler dans leur langue. Certains venaient de pays éloignés, ils parlaient... Il vient révéler dans nos vies les merveilles de Dieu. Et le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance. J'ai mis en gras ce mot. Puissance, ce n'est pas une force. Une force, c'est je suis fort, je montre mes muscles. Une puissance, c'est quelque chose qui fait bouger. En physique, s'il y en a qui ont fait de la physique, une puissance... C'est une force qui déplace quelque chose pendant un certain temps. S'il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas de puissance. Vous voyez, vos voitures, on dit que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as comme voiture, mon frère? Tu as une voiture? Une Clio. Bon, alors il y a une Clio, comme ça, à vue de nez, elle doit faire 85 chevaux, hein, à peu près, hein, 85 chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a la puissance de 85 chevaux qui tirent une charge. Mais il faut qu'ils tirent une charge. Sinon, ça n'a pas de puissance. D'accord ? Donc vous recevrez une puissance, c'est-à-dire quelque chose qui va faire bouger. bouger profondément, une puissance extraordinaire, la puissance de Dieu qui vient faire bouger. Et qu'est-ce qu'elle vient faire bouger? Qu'est-ce que c'est qu'elle vient faire bouger? Qu'est-ce que c'est qu'elle vient transformer cette puissance? Vous, moi, chacun de nous, elle vient transformer nos cœurs. Elle vient transformer notre entendement, elle vient transformer notre vision, elle vient transformer notre foi, elle l'a fermée afin qu'elle devienne forte. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient et qui dit « Regardez ce que le Seigneur a fait, il a transformé ma vie ». J'étais dépressif, maintenant j'ai une espérance, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mon épouse est là, elle peut vous dire, un jour dans une église, à Voisin, je prêche le dimanche après-midi, une réunion d'évangélisation. À la fin de la réunion, je dis au revoir aux gens, puis je lève mes yeux et je vois que dans les premiers rangs, il y a une sœur qui est restée comme prostrée, la tête entre les mains, qui n'a pas bougé. Alors, je revais m'asseoir à côté d'elle, j'ai dit « Sœur, vous avez un problème ?» Elle me dit « Oui, frère, c'est terrible. C'est terrible. Mon mari, il est en pleine dépression nerveuse, il est en train de devenir fou. Il a failli tuer les enfants. J'ai dû m'enfermer dans la salle de bain avec un couteau de cuisine. Il a traversé la porte de la salle de bain. Enfin, truc. Il est devenu fou, il est en pleine dépression. » Je suis en train de me dire, je vais le mettre dehors. Ce soir, quand il rentre, il va trouver une valise devant la porte. Il ne passe plus la porte. Moi, je lui dis, mais sœur, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, déjà qu'il est en dépression, il va... Alors là, on ne sait pas ce qu'il peut faire, quoi. Et je lui dis, non, vous ne pouvez pas faire ça. Si, je vais faire ça. Je lui dis, non, sœur, vous... Alors je discute un moment avec elle. Et je lui dis, écoutez, sœur, donnez-moi son numéro de téléphone au travail. Je vais l'appeler. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais... Je l'ai appelé. Bon. Elle me donne son numéro de travail. Voilà. Vous avez quelques problèmes, etc. Alors, vous savez, ce soir, si vous voulez que parler, tout ça, vous pouvez venir dormir à la maison. Moi, je vous accueille. Et il me dit non, non. Très froid. Il me dit non, non, pasteur, c'est pas la peine. Voilà. Bon. Le soir, il vient pas. Le lendemain, dans la journée. Il m'appelle, il me dit, pasteur, votre proposition d'hier, elle est toujours valable? Je lui dis, bien sûr, vous pouvez venir, on parlera, vous mangerez à la maison, vous dormirez à la maison, c'est pas un problème. Alors il vient. Il vient, il me dit, en fait, hier, j'ai trouvé la valise devant la porte, je suis parti à l'hôtel. À l'hôtel, dans la nuit, quelqu'un a cassé le rétroviseur de ma voiture. Vous savez, les rétroviseurs aujourd'hui sont électroniques, etc. Ça coûte cher, quoi, un rétroviseur. Il a cassé un rétroviseur. Je me suis dit que chez vous, c'était plus sûr qu'à l'hôtel. Eh bien, écoutez, oui, c'est plus sûr qu'à l'hôtel. En moi-même, je me suis dit, il y a un ange briseur de rétroviseur, vous voyez. Ah, il est venu à la maison. Il est venu à la maison. Ma femme me dit, chérie, nous aussi on a des enfants petits, qu'est-ce que je fais? Je laisse les couteaux de cuisine sur le plan de travail? Je dis, oui, tu vas laisser les couteaux de cuisine, mon Dieu, il est plus grand que tout. Ça a été, on l'a gardé à la maison, je ne sais plus, 5 jours, une semaine, je ne sais plus trop. Ça a été le combat spirituel le plus grand, je pense, de mon ministère. Il se levait à 5 heures du matin. Je me levais à 5 heures du matin, j'avais 3/4 d'heure de prière avec lui. Il n'ouvrait pas la bouche, il ne disait pas un mot. Un homme dans une dépression profonde, le regard vide. Vous savez, dans ces moments-là, ça fait même peur, parce que vous avez quelqu'un dont le regard est vide. Et c'était terrible. Le soir, il rentrait, je lui parlais, pas un mot, rien. Puis au bout de quelques jours, un jour... je ne sais plus, on avait un piano dans la maison, je fais 2 notes, il dit « Ah, tu as un piano ?» Je dis « Oui, pourquoi? Tu sais jouer du piano ?»« Oui, je sais jouer du piano. »« Ben, joue-moi quelque chose. » Et vous vous rappelez, hier, je disais faut trouver un point de contact, un fil, un lien. Et là, il a commencé à s'ouvrir un peu, on a parlé du Seigneur, on a prié. Une semaine après, il était guéri, sorti. Et des gens dans son état, ils vont voir des psychiatres, ça dure des fois 30 ans. Là, une semaine après, il était guéri. Le couple s'est remis ensemble, les enfants ont grandi. Il a été béni, il a changé de travail, une promotion, il a eu une maison formidable. Quelques temps après, il est allé manger chez lui, il m'a dit, tu sais, mes parents qui sont inconvertis, quand ils voient tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, ils se posent des questions. Parce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont vu changer, parce qu'ils ont vu leur fils qui était profondément dépressif revenir à la vie, retrouver une espérance, retrouver la joie de vivre. Un vrai changement. En une semaine, le Seigneur, il opère des miracles dans nos vies, mes frères et sœurs. Et c'est ça, la puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, tu es peut-être en train de traverser des moments durs de ta vie. Crie au Seigneur, dis-lui, Seigneur, je veux recevoir cette puissance du Saint-Esprit qui va changer ma vie, qui va renouveler complètement ma vie, qui va faire bouger les choses dans ma vie. Rappelez-vous ce que dit Pierre à la Pentecôte. Cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux au loin, au plan d'aube. Pour tous ceux au loin, elle est pour toi, mon frère, ma sœur, la puissance du Saint-Esprit. Et voyez-vous, vous serez mes témoins, c'est souvent mal compris. On pense que la puissance du Saint-Esprit, elle vient pour nous donner la force, l'audace de témoigner. Non, c'est pas ça. Non, la puissance du Saint-Esprit, elle vient en vous pour vous transformer. Et quand, une fois que vous êtes transformé, mais c'est facile de dire qu'on est un témoin, c'est facile de parler de Jésus-Christ. C'est facile de dire, mais le Seigneur m'a guéri. Vous savez, j'étais malade, et j'ai prié, le Seigneur m'a entièrement guéri. Amen. Mais voyez, pour témoigner, il faut que le Seigneur il ait fait bouger les choses. Il faut qu'il y ait eu un changement profond. J'étais dépressif, j'ai crié à Dieu, ah, ça y est. Un poids de 100 kilos m'a été enlevé, maintenant je loue le Seigneur, je bénis le Seigneur, j'ai la joie dans le cœur. Alléluia. Seigneur, témoins par leur vie et par leur parole. Mais s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui a bouleversé, qui a changé, qui a fait bouger la vie, qui a fait bouger ton cœur, qui a ouvert ton esprit aux choses de Dieu. Mais tu parles, tu témoignes de paroles qui ne sont que des choses que tu as entendues. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des répétiteurs. Je ne sais pas si beaucoup ont eu déjà des accidents en voiture, en moto. Est-ce que des accrochages, ça arrive, hein, allez. Allez, on est entre nous. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé à d'autres? Ah, bon. Alors, vous rentrez tranquillement en train de regarder la télévision et qui dit « Ah oui, moi, je veux bien témoigner. » Le juge, il lui dit « Excusez-moi, monsieur, vous n'étiez pas sur place, vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, votre témoignage, il ne vaut rien. » Être témoin, c'est être là, quand les choses se passent. Eh bien, vous serez mes témoins, parce que vous pourrez dire, là, les choses se sont passées, je peux en témoigner, Dieu a changé ma vie. Ah, ce témoignage-là, oui, il a de la valeur. Mais si vous êtes simplement en train de dire, oui, tu sais, je répète ce que j'ai entendu, oui, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez le certifier? Moi, je peux certifier que le Seigneur a changé ma vie. Amen. Alléluia. Témoins par leur vie et leur parole. Un comportement différent des autres hommes. Une puissance différente. Une puissance dans l'affirmation, dans la certitude. Une puissance différente face aux obstacles de la vie, face aux difficultés de la vie, face aux épreuves de la vie. Mon frère, ma sœur, tu traverses une épreuve. Oui, moi aussi je traverse une épreuve. Les docteurs, si on les écoute, ils disent « mes jours sont comptés ». Oui, les siens aussi. Ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide des combats. J'ai rien, aucune crainte à avoir. Je suis dans les mains de Dieu. Alléluia. Oui, tu peux traverser des combats. Oui, tu peux avoir des épreuves. Un chrétien, il n'est pas mis de côté. Il n'est pas épargné par les épreuves de la vie. Il n'est pas épargné par le diable. Hier, j'en donnais le témoignage. La parole de Dieu nous dit, il est comme un lion rugissant, prêt à dévorer. Tu ne seras pas épargné, mais il y a une différence. C'est que tu as une certitude dans le cœur. J'ai donné ma vie à Dieu et Dieu me garde. Et ma vie, elle est dans ses mains. Ce n'est pas le lion qui aura le dessus. Ce n'est pas les épreuves qui auront le dessus. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Une puissance différente. Ils vivent les paroles de Jésus. Ils les vivent. Pas simplement ils les connaissent, mais ils les vivent. À Antioche, comment on a su qu'ils étaient chrétiens? Pourquoi dans la ville d'Antioche, les gens ont dit, eux, c'est des chrétiens? Par leur vie, leur comportement dans la société et leur témoignage. C'est pas eux qui ont dit, vous savez, nous, on est chrétiens, non? Le mot n'existait pas, donc ils ne risquaient pas de dire, nous, on est chrétiens. Hein? C'est les autres qui ont dit, hé, ceux-là, ils sont de la terre, c'est des terriens. Ceux-là, et c'est des martiens. Bon, il n'y en a pas, mais s'il y en avait, c'est des martiens. Et ceux-là, c'est des chrétiens, ils sont de Christ. En fait, chrétien, ça voulait dire petit Christ. C'est des petits Christ. On retrouve en eux la vie de Christ, on retrouve en eux les sentiments de Christ, on retrouve en eux les paroles de Christ. Alors, c'est comme ça qu'ils témoignent. Mes frères et sœurs, la mission du chrétien, c'est de témoigner. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Jérusalem, c'est-à-dire dans la ville où vous êtes. Dans la ville où vous êtes, vous serez mes témoins. Dans toute la Judée. La Judée, c'est la partie, le territoire qui entourait Jérusalem. C'est-à-dire le territoire tout autour de Jérusalem. C'était des Juifs, ils aimaient Dieu, ils comprenaient la puissance de Dieu, ils comprenaient l'adoration pour le Dieu vivant et vrai. C'était la Judée. Mais le Seigneur leur dit quelque chose de plus. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. La Samarie, c'est une région un peu plus éloignée déjà. Ah, la Samarie, c'est pas du tout pareil. Hein. L'Évangile nous parle de la Samarie. Vous vous rappelez la Samaritaine? Jésus rencontre une femme samaritaine, ils discutent. Et la femme samaritaine lui dit, oui, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais nous, nos pères disent qu'il faut adorer sur cette montagne. Une différence fondamentale. Et les Juifs méprisaient les Samaritains. Et quand les disciples vont revenir, ils étaient allés faire les courses, ils reviennent, ils trouvent Jésus en train de discuter avec une femme, et en plus samaritaine, ils sont soufflés, quoi. Ils disent, mais comment ça se fait? Tu parles à une femme et une samaritaine en plus. Parce que les Juifs, le texte précise, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. C'était une culture, pour eux, étrangère. Il y a un choc de culture, là. Un choc de culture. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes, ils n'auraient pas parlé à la Samaritaine. Ces gens-là, ils sont différents de nous, ils ne comprennent rien, ils sont dans l'erreur. Voilà. Eh bien, le Seigneur dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins même là, où il y a un choc de culture. Et puis, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, j'aime beaucoup l'humour de Dieu. Les extrémités de la terre, c'est où, en fait? Hein? C'est où, les extrémités de la terre? La terre est ronde. Alors, les extrémités de la terre pour Istres, c'est le Vanuatu. Amen, merci Seigneur, je suis allé y prêcher l'évangile. Alléluia! Alors, voyez, j'ai essayé de faire un dessin pour que ça nous reste. La mission de l'Église, c'est aller annoncer, témoigner. Et il y a quatre sphères. La première sphère, c'est la ville, Jérusalem. Pour vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas Jérusalem, c'est Istres. Mais après, il y a la région. C'est ce qui est autour d'Istres, les villages, voilà, qui sont autour d'Istres. Ça, c'est le travail de l'Église d'Istres. Et puis, il y a le choc de culture, aller au-delà dans des cultures. Quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Indonésie, quand vous allez en Papouasie, la culture est franchement différente. Hein. Ça, je peux vous dire qu'il y a un choc de culture. Mais ces gens-là, Dieu veut aussi les sauver. Alors, est-ce que c'est Istres qui va aller toucher les peuplades au fin fond de la Papouasie ? Et non, mon frère, ma sœur, tu as un travail, tu as une famille, tu es à Istres, et le Seigneur te demande de témoigner, d'annoncer l'Évangile dans Istres et dans la région. Mais par contre, il y a des missionnaires qui partent, que le Seigneur envoie. Alors, ton travail, ta mission, c'est de les soutenir. De les soutenir par la prière, de les soutenir par les dons, afin que le Seigneur les utilise dans ce travail au loin. Et puis, les extrémités de la terre, eh bien, nous envoyons des missionnaires. Par exemple, j'ai parlé du Vanuatu. Au Vanuatu, nous avons le couple Aot. Le couple Aot, c'est sous mon mandat qu'il est parti au Vanuatu. Et un jour, les Aot sont venus, m'ont dit, tu sais, nous, on a à cœur la mission depuis 20 ans. Ok, d'accord, on va étudier les choses, on va regarder. Puis ils m'ont dit, viens, je devais faire une présentation du projet missionnaire qu'ils avaient. Ils m'ont dit, ben, viens dormir à la maison, chez eux. Ah, ben en allant dormir à la maison, chez eux, j'ai compris que leur cœur était missionnaire. Hein. Dans le salon, sur un mur, il y avait, plus grand que votre écran, là, la carte du monde. Sur l'autre mur en face, une carte du monde. La table de la salle à manger, la toile cirée, la carte du monde. Vous alliez au WC, tous les drapeaux du monde. Ils vivaient avec la pensée, le monde. Il faut qu'on touche le monde. Alors ils sont au Vanuatu, on les a envoyés. Pour aller au Vanuatu, il faut 36 heures d'avion. C'est à l'autre bout du monde. On arrive, on est épuisé. Et le Vanuatu, c'est un pays pauvre. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu veut toucher. Et ils font un beau travail. Et il y a des écoles. Et il y a une communauté qui est en train de s'ouvrir. Et on les soutient dans la prière. Et on les soutient à travers les dons qu'on fait à l'action missionnaire. Voilà, eux, ils s'occupent des régions où il y a le choc de culture, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous, vous, mes frères et sœurs, c'est la ville et la région. C'est la mission du chrétien. Alors, je reviens un tout petit peu sur le être chrétien dans le monde, puisque le Seigneur dit ils sont chrétiens dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Eh bien, je voudrais vous dire qu'être chrétien, c'est faire un tri dans la mode et dans la culture. Tout n'est pas à rejeter. Je pense que mes grands-parents ne risquaient pas d'avoir un polo comme j'ai aujourd'hui. Je disais à mon épouse, je ne sais pas, hier ou un truc comme ça, jamais mon père n'aurait mis les chaussures que j'ai, quoi. On mettait des chaussures comme ça, à la limite, pour faire du basket, mais certainement pas pour aller dans une église, quoi. Hein ? Les modes ont changé. Bon, ça, c'est pas... Il n'y a rien de contradictoire avec la parole de Dieu. Après, dans la mode, il y a des choses qui deviennent contradictoires avec la parole de Dieu. Si... La mode, c'est avoir une mini-jupe, où des fois on ne sait plus très bien si c'est une ceinture ou une jupe, tellement c'est petit. Là, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous invite à être pudiques, à ne pas exhiber la nudité. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc ça, je le mettrai de côté. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut suivre dans la mode, et puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas suivre dans la mode. Il y a avoir montré ses bras, bon, c'est bien pour les dames. Avoir des décolletés plongeants qui laissent apparaître toutes les formes d'une poitrine, ça, c'est afficher sa nudité. Ça, vous l'écartez. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Voilà, je vous ai donné un exemple, vous pouvez continuer, hein. Et puis, la culture, on en parlait, la culture aujourd'hui, tout est permis, il n'y a plus aucun respect. Mais ce n'est pas du tout ça dans la parole de Dieu. La culture aujourd'hui, dans le monde occidental, et j'ai demandé aux frères en Afrique, ils m'ont dit c'est pareil. Donc c'est dans le monde entier. La culture, c'est que toute la jeunesse dit, nous, si ça nous intéresse, on veut bien s'engager. Mais quel est notre intérêt ? Et puis, si on a envie, on le fait, mais si on n'a pas envie, on ne le fait pas. C'est un tel point qu'il y a des séminaires qui sont faits pour les patrons de société, parce que les patrons de société, c'est des gens qui avaient l'habitude de nos générations à moi, et nos générations à moi, on s'engageait, on avait une notion de l'honneur, de l'engagement, de... Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est de l'individualisme. Ah, si ça me plaît, je le fais. Demain, ça me plaît plus, je le fais plus. Mais, attendez, c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Vous vous engagez avec le Seigneur, c'est pas pour un jour, c'est pour toute votre vie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Moi, j'ai tout donné. Amen. J'ai tout donné. Vous ne donnez pas un peu, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Vous ne lui donnez pas juste pour les moments où vous êtes dans la joie, et puis quand il y a une épreuve, ah non, là ça ne m'intéresse plus. Au contraire, je vais traverser l'épreuve avec toi. Alléluia. Donc on fait un tri dans la mode et dans la culture. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre va dire sortez du milieu d'eux, en parlant de la société dans laquelle on est. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Et Dieu dit, je vous accueillerai. Alors vous voyez que quand il dit sortez du milieu d'eux, vous rappelez la prière de Jésus, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Quand l'apôtre il dit sortez du milieu d'eux, il ne veut pas dire mettez-vous à part. Mettez un mur entre le monde et vous pour que vous ayez aucun rapport entre le monde et vous. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire sortez de l'influence du monde, sortez de la pollution du monde. Ne vous laissez pas polluer par la culture, la mode du monde. Mettez-vous à part et ne touchez pas ce qui est impur. Comment je vais savoir si quelque chose est impur? Mais par la parole de Dieu, c'est elle qui va m'éclairer. C'est pour ça que mon frère, ma sœur, il faut la lire, il faut bien la lire, il faut bien la comprendre. S'il y a des... Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On peut les lire pendant 10 fois, on ne les a pas compris. Moi, je sais que... Je vais te donner un exemple. Hein. Quand j'étais jeune, je lisais cette parole de la, où l'apôtre écrit dans une des lettres, il dit... Voilà, je viendrai chez vous et je verrai parce que, comment il dit, si votre, tu vas m'aider à retrouver la parole exacte, si votre foi est complète et alors et que je trouve des dysfonctionnements dans l'Église, alors je vous sanctionnerai sévèrement. Et moi je me disais, mais Seigneur, comment il dit, si votre foi est complète, si votre amour est complet? Et il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne vont pas. Comment ça peut se faire si c'est complet? Et pourquoi? Vous voyez, il y avait... Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire complet? Alors j'ai pris un dictionnaire et j'ai lu la définition du mot complet. Le mot complet, ça veut dire qui possède tout ce qui est nécessaire. Ah, ça a éclairé ma compréhension. J'ai compris que l'apôtre, il disait, lorsque votre connaissance... de la parole de Dieu, votre foi, elle aura atteint le niveau où vous avez tout ce qui est nécessaire. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, à ce moment-là, ce n'est pas une erreur de votre part, c'est une volonté. Parce que vous savez ce qu'il fallait faire, mais vous ne le faites pas. Vous comprenez la différence? Et là, le Seigneur dit, là, je ne serai pas tendre avec vous. Là, je vous avertis. Plus le Seigneur va t'éclairer sur ce que tu dois faire. Après, il faut que tu le fasses. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière, il faut briller dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il y a d'une part être la lumière, ce que nous sommes, parce que le Seigneur a transformé nos vies, et puis il dit vos bonnes œuvres, parce que si le Seigneur a transformé ma vie, je reste... Vous vous rappelez, hier on a vu, afin que vous ne soyez pas oisifs ni stériles. Si le Seigneur a transformé ma vie, si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, si le Seigneur a fait bouger mon cœur, bouger mon âme, mais je ne vais pas rester assis sans rien faire, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir les frères, dire « qu'est-ce que je peux faire dans l'église ?» Allez voir Joël, dites-lui « voilà, moi je sais faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider ?» Une église, c'est une fourmilière. Amen. Tout le monde travaille, tout le monde fait quelque chose. On ne reste pas oisif, on n'est pas stérile. On apporte la vie de Dieu. Alors, il dit, vous êtes la lumière devant les hommes. Et puis, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas? Je l'ai mis, et hier je vous l'ai déjà dit. Que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ça s'adresse aux jeunes. Amen. Pas la peine d'attendre d'avoir 50 balais pour être entièrement dévoué, entièrement tout donné au Seigneur. Merci mon frère, moi j'ai tout donné. Alléluia. Le chrétien, il se distingue. C'est ça, être le sel, la lumière. Il se distingue. Il se distingue par son comportement et par ses œuvres. Comment briller? On va le lire dans Éphésiens 3,14. J'ai l'habitude de dire Éphésiens pi. Hein, 3,14, 21. Et voilà, voilà ce que dit l'apôtre. Il dit, il vient de parler de toutes les promesses de Dieu, de la puissance de Dieu. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous vous rappelez, on l'a vu ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est ce dont on parlait. Le Saint-Esprit vient faire bouger votre homme intérieur. Par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et afin qu'étant enraciné, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte, écoutez bien, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh ! Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que nous comprenions avec tous les saints. D'abord, il dit que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est remarquable de voir qu'il ne dit pas la parole de Christ, mais il dit Christ, c'est-à-dire les sentiments de Christ, le discernement de Christ, la constance de Christ, j'allais presque dire l'autorité de Christ. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et puis, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Donc, mes frères et sœurs, comprendre est à la portée de chacun. Chacun de nous, nous pouvons comprendre cette immensité de l'amour de Dieu. Et nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous voyez, c'est un mot qui, on comprend, ça nous fait plaisir, être rempli. Mais c'est quoi la plénitude de Dieu? Alors je vous propose une réflexion. Comment briller? Eh bien justement, pour être brillé, il faut que nous soyons remplis de la plénitude de l'amour de Dieu. Ce n'est pas, quand il est dit de la plénitude de Dieu, on ne devient pas le Dieu créateur, non, mais être rempli de l'amour de Dieu. Et l'apôtre insiste en disant la largeur, comprendre la largeur. Et oui, la largeur. La largeur, parce que l'amour de Dieu, il s'étend à tous les pays, à tous les peuples, à tous les pécheurs. Il n'y a personne d'exclu. Sur toute la surface de la terre, personne n'est exclu. La longueur, parce que la longueur, l'amour de Dieu dure éternellement, sans fin. Tout le chemin qui est devant toi, qui est devant moi, toute ta vie, tous les jours de ta vie, aussi nombreux qu'ils soient, l'amour de Dieu sera là pour toi. La profondeur, parce que aussi bas qu'un homme puisse tomber, l'amour de Christ est là pour lui, pour le relever. Tu ne peux pas, quel que soit la situation, la bassesse, les erreurs, le péché commis, l'amour de Dieu est là pour le relever. La profondeur de l'amour de Dieu. Et puis la hauteur de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Christ, il veut encore t'élever. Il veut t'élever jusqu'au trône même de Dieu, jusqu'à la présence même de Dieu. Vous allez dire, mes frères, vous y allez un peu fort, non ? C'est ce que dit l'apôtre, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà comment vous allez briller, mes frères et sœurs. Comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu qui est toujours là pour relever, qui est toujours là pour restaurer, qui est toujours là pour guérir, qui est toujours là pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Le sel, il redonne la saveur. La différence, c'est l'homme intérieur. La différence, oh, c'est pas sur le visage que ça se voit. C'est pas sur la corpulence, c'est pas sur la taille, c'est pas sur... On est semblable aux autres. Hein. Bon, certains, ils ont les oreilles un peu plus écartées. Moi, je suis de ceux-là. Bon, d'autres, ils ont les oreilles plus collées. OK, mais voilà, c'est pas là-dessus. Non. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence ? C'est l'homme intérieur. Alléluia. Nous terminons là-dessus. Notre but, mes frères et sœurs. Seulement, l'apôtre va dire, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs. L'apôtre n'a pas peur de dire, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans le monde tout en étant en Christ, en faisant la différence que j'ai dit. Nous sommes appelés à être le sel, la lumière dans notre famille, mais aussi dans la société qui nous entoure, dans le monde. Nous sommes appelés à être remplis de toute la plénitude de l'amour de Dieu, et de comprendre avec tous les saints. Oh, quand on a compris ça, on n'est pas un phénix, non. Vous savez, il y a juste des milliards de chrétiens avant vous qui l'ont compris. Hein. C'est plutôt, si vous ne le comprenez pas, alors là, ouh, honte à vous, quoi, parce que des milliards l'ont compris avant vous. Hein. Moi, je veux comprendre ça. Alléluia. Être rempli de toute la plénitude de l'amour de Dieu, et puis annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ, par nos vies et par nos paroles. Amen. On termine là, on dit Seigneur, on veut être ces chrétiens qui brillent. On veut être ces chrétiens que la puissance de Dieu transforme, renouvelle, change les cœurs. Seigneur, on veut être ces chrétiens-là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, alléluia. Merci mon Seigneur. Merci parce que la puissance de ton esprit, elle vient renouveler complètement nos cœurs, nos âmes, notre être intérieur. Seigneur, il n'y a plus des choses qui nous font peur parce que tu es avec nous, parce que tu marches avec nous. Comme disait l'apôtre, je sais en qui j'ai cru. J'ai mis ma main. Quel miracle ! L'Esprit Saint qui vient faire bouger nos cœurs et notre compréhension, qui vient nous donner de comprendre ton amour qui s'étend à tous les hommes, ton amour, Seigneur, qui touche tous les hommes, ton amour, Seigneur, qui veut m'accompagner tout le long de ma vie jusqu'à mon dernier souffle de vie. Seigneur, ta parole me dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que après, Seigneur, c'est nous qui serons avec toi. Seigneur, ton amour qui relève l'homme, qui est descendu le plus bas qui soit, la femme qui a pu descendre le plus bas qui soit moralement. Mais Seigneur, tu veux la relever, parce que ton amour, il va jusque-là. Seigneur, tu veux le relever, tu veux nous relever jusqu'à la plénitude du trône de Dieu. Oh Seigneur! Ton amour est merveilleux. Oui, nous voulons briller. Nous voulons être ces témoins qui disent « Regardez, regardez d'où je viens. Regardez ce que Dieu a fait en moi. Regardez ce que Dieu a transformé dans ma vie. Aucun homme, aucune philosophie, aucun moyen humain ne pouvait faire ça. Seul Dieu pouvait le faire. Et il l'a fait dans ma vie. Et s'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la tienne. Alléluia. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons briller. Nous voulons être ces témoins qui témoignent par leur vie, qui témoignent par leurs paroles en disant aux autres, regardez, je suis un exemple vivant de ce que Dieu peut faire en toi. Alléluia. Mon ami, mon ami, ce matin, laisse-toi, ouvre ton cœur, dis, Seigneur, que ton esprit vienne, qui renouvelle mon être intérieur, qui me donne de briller, qui vienne briser encore toutes les idées fausses que j'ai en moi, tous les liens qui sont en moi. Seigneur, viens les briser, ôte-les, je veux être ce témoin pur, je veux être ce modèle, ce modèle en action, en sentiment, en parole, Seigneur, cette lumière qui éclaire, je veux être ce sel qui va donner du goût, ce sel qui va me rendre différent. Seigneur, je veux ça, je veux avoir cette lumière en moi. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, qu'on demande ensemble au Seigneur? Seigneur, on veut ça. Mon frère, ma sœur, peut-être tu es dans un moment particulier de ta vie, tu te lèves à ta place. Ensemble, on crie à Dieu, on dit, Seigneur, que la puissance de ton esprit vient, qu'elle transforme ces épreuves, qu'elle transforme ces moments douloureux en moments de joie, en moments d'allégresse, pour qu'ils puissent dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a relevé, il a changé ma vision, il m'a redonné une espérance nouvelle, il a fortifié ma foi, je n'ai plus peur de rien parce qu'il est avec moi. Mon ami, voilà ce que Dieu veut faire. Il veut faire de toi un témoin dans le monde. Il veut faire de toi une lumière à Istres et dans les environs de la ville. Il veut que les gens disent, mais il est différent. Il y a quelque chose en lui de différent. Et oui, il y a la puissance de Dieu qui a œuvré dans sa vie. Alléluia. Peut-être ce matin, quelqu'un voudrait particulièrement demander ça au Seigneur. On reste en prière. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, tu te lèves à ta place. On prie ensemble. Je vais demander à votre pasteur de prier. On va prier ensemble. On demande au Seigneur, Seigneur, je marche, mais je voudrais que tu fortifies ma marche. Je voudrais que tu relèves encore, Seigneur. Je voudrais que tu mettes une puissance nouvelle dans ma vie. Je voudrais, Seigneur, être cet homme, cette femme, inébranlable, à l'image de Christ, inébranlable. L'apôtre dit, considérez quelle opposition il y a eu contre lui, mais il est resté inébranlable, fondé sur l'amour de Dieu. Seigneur, je veux être fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, inébranlable. Père Saint, c'est toi qui fais ces choses. Et nous te demandons, nos cœurs sont ouverts, nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, viens faire ces miracles-là en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.